Bien. Jean-Bernard Leroy, j'ai l'intention aujourd'hui de vous parler de la noblesse de la femme, un sujet qui est bien controversé actuellement. Mais avant d'aborder ce sujet, objet de tant de controverses mensongères et souvent dégradantes, je voudrais aborder pour une ou deux minutes un sujet tout aussi brûlant. En triant de vieilles brochures, je me suis arrêté à un texte de l'abbé Serralda, vieux de 30 ans. L'abbé Serralda exerçait la quasi-totalité de son ministère en Algérie. Il connaît fort bien le Coran. Son texte ne comporte pas moins de 300 citations. Une des caractéristiques principales est que le Coran considère les hommes comme des esclaves. Je ne citerai que 3 citations. La terre est à Dieu, il en fait hériter qui il veut parmi ses esclaves. Tous les êtres des cieux et de la terre sont esclaves du miséricordieux. Allah est le maître absolu de ses esclaves. Nous ne remercierons jamais assez Dieu d'être des chrétiens, non des esclaves, mais des serviteurs de ce Dieu qui est amour, comme l'a rappelé Benoît XVI dans son encyclique. Nous avons à notre disposition l'aide des saints, la protection de la Sainte Vierge et ces sacrements quasi incroyables que sont la pénitence et l'Eucharistie. Nos péchés sont pardonnés par des prêtres qui en ont reçu le pouvoir et nous recevons substantiellement le corps et le sang du Christ. Le Christ ne nous appelle plus serviteurs, ce qui est déjà beaucoup mieux qu'esclaves, mais amis, comme l'a écrit saint Jean. Si on se représente Dieu comme le Seigneur résidant dans un château, on peut dire que les païens sont loin dans la forêt, les musulmans rôdent dans le parc, les juifs serviteurs sont dans les communs, les protestants sont reçus dans le salon, mais catholiques et orthodoxes sont invités dans la salle à manger. Heureux les invités au repas du Seigneur. Nous sommes des privilégiés, les ouvriers de la 11e heure. Pensons à en remercier le Seigneur et à goûter cette joie incroyable. Après cette introduction un peu longue, je désirerais parler de la femme, un sujet bien fréquent dans nos moyens de communication. Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul » et il créa la femme. La femme n'est pas l'égale de l'homme. Les deux sont complémentaires, comme le papier et le crayon. Pour y créer une lettre, il vous faut les deux, sans que l'on puisse dire que l'un soit supérieur à l'autre. Essayons d'approfondir. Il y a d'abord le côté sacré du corps de la femme, car c'est en lui que se construit pendant plusieurs mois un être dans lequel Dieu insufflera une âme semblable à lui. Quelques heures et même quelques minutes après la procréation, l'homme n'y pense plus guère. Mais c'est pendant de longues semaines que la femme sentira la présence de la nouvelle créature. Le corps de la femme est le premier abri de ce nouvel être appelé à l'éternité. Celui de la Vierge Marie fut le premier calice dans lequel reposa le corps du Sauveur. Le corps de la femme, source de vie, a donc un côté sacré. Je ne dis pas qu'il est entièrement sacré, mais qu'il y a en lui une dimension particulière. Déjà, l'Église honore la présence des fidèles, le corps des fidèles, elle les encense au cours des messes solennelles, lors de ses funérailles, le corps du défunt, qui en principe est habité par la grâce, est longuement encensé. Que dire alors du corps de la femme qui l'a gardé avec amour les premiers mois de son existence? Le corps de la femme n'est vraiment pas un simple objet de plaisir. Non, le corps de la femme n'est pas une poupée gonflable, juste destinée à assouvir le feu de la passion qui dévore l'homme. On ne peut prendre, comme le disait Lénine, on ne peut penser, comme le disait Lénine, que l'union de l'homme et de la femme n'a pas plus d'importance que de boire un verre d'eau. C'est une nouvelle incarnation de l'amour de Dieu. Mais notre époque méprise l'amour, ne voulant plus considérer que le désir, allant jusqu'à une glorification de l'égoïsme. L'union conjugale, au-delà du plaisir qu'elle entraîne légitimement, est une synthèse de la vie et de l'amour. J'ai entendu dire par le père Philippe, fondateur des Petits Gris, Ève était la préférée de Dieu. Il lui confia ces deux choses les plus précieuses. Il la fit gardienne de la vie et gardienne de l'amour. Mais Dieu se complaît dans l'humilité. Il laissa à l'homme la parole, la décision, la gloire, bref, le clinquant. De fait, l'homme, j'ajoute en général, pour ne pas être en, l'homme, j'ajoute en général, pour ne pas être envoyé en prison, l'homme a en charge l'organisation de la société, de la production de la nourriture, chasse et agriculture, et de la protection de la société depuis le péché. Cela s'appelle très souvent la guerre. Mais si l'homme apporte le poisson, la viande et les légumes, c'est la femme qui, avec tout son amour, les cuisine pour la joie de tous. C'est la femme qui sème l'amour, les hommes n'ont en général que des collègues. Faisons une excursion dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, les femmes utilisent la ruse, voire le mensonge, pour amener les hommes à agir comme elles le désirent. Seules Sarah puis Rachel envoyèrent leurs servantes dans le lit de leur mari pour avoir des fils, quitte à les renvoyer ensuite sans ménagement, comme Sarah le fit d'Agar, et cela pour asseoir leur suprématie. Ajoutons la machination de Rebecca pour favoriser Isaac. Il n'y a qu'une femme pour inventer cela. L'homme succombe au charme de la femme, citons Salomon devant Dalila. Hérode devant Hérodiade, qui sut se servir de sa fille Salomé, artiste en striptease, et Judith, qui fit croire que son sac transportait des offrandes au Seigneur, alors qu'il s'agissait de la tête d'Holoferne. Le charme de Bethsabée poussa David à faire tuer son mari. Mais il y eut aussi quelques modèles, comme Ruth la bien-aimée et la chaste Suzanne. Le Nouveau Testament porte les femmes à leur sommet. La Sainte Vierge, bien sûr, mais aussi Marie-Madeleine, la fidélité sans faille une fois délivrée de ses 7 démons. Un autre exemple est la Samaritaine. Elle n'a pas cherché quelque aide pour porter sa cruche, mais surtout comment il convenait d'honorer Dieu. Une fois le Messie retrouvé, elle courut l'annoncer aux Samaritains sans tenir d'autres discours. Et n'oublions pas ce verset de saint Luc dans son chapitre 8, Jésus et ses disciples étaient accompagnés de femmes qui les aidaient de leurs ressources. Qu'auraient fait ses disciples sans ces femmes? Actuellement, les femmes exigent d'avoir le pouvoir sur toutes les décisions. Il ne reste plus aux hommes que le droit d'être trompés. Certains revendiquent le droit d'être juges. Cela me semble horrible. On appelle Notre-Dame notre avocate, avec raison. Une femme est très habile pour arranger les choses. On l'appelle aussi Notre-Dame, celle qui défait les nœuds. Mais comment imaginer d'être condamnée par la Sainte Vierge, damnée par Notre-Dame? La femme, la mère, est là pour consoler. On dit que beaucoup de blessés sur le champ de bataille appelaient maman, jamais papa. La femme est chargée de l'essentiel, l'homme du secondaire, même s'il est indispensable. Le livre des Proverbes est toujours actuel. La femme vaillante est le couronnement du souverain. Trouve la joie dans la femme de ta jeunesse, biche d'amour, gracieuse gazelle, que toujours te grise ses amours. Facilitons le rôle des femmes par des lois justes, équitables et par le rappel de la noblesse invraisemblable de leur rôle à donner la vie. Voilà, c'est la fin de l'été. C'est bientôt la fin de l'été. Je vous souhaite de bonnes vacances.